On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh,
je
trouve ça.
Να φτιάξουμε λίγο να το δει διαφορετικά. Εγώ θα βάλω τώρα λίγο λαδάκι. Το έχω ζυμώσει την πρώτη φορά.
Elle a mélangé de la farine avec de l'eau et de la levure.
Ça, c'est la pâte à pita. Hein?
Elle a mis un peu d'huile d'olive et elle pétrit avec l'huile d'olive.
Le garo me diasmo το δωράκι. Ça baigne de l'huile. C'est une expression chez nous. Quand tout va bien, on dit ça baigne de l'huile. Chez nous, c'est positif.
Για να δω τι θα κάνει, δεν θα σου πω τίποτα τώρα.
On va farcir la pita.
On va farcir la pita.
C'est moi qui fais. En tout cas, en gros. Dax. Donc, je prends un peu d'oignon. Deux tranches de tomates. Une grosse cuillère de zadiki. On la plie en trois. Et une serviette et on est prêt. C'est impossible à décrire tellement c'est bon.
C'est fondant.
Soleil au beau fixe sur le plateau dont va déguster. Si je vous dis pita, feta, portocallo pita, moussaka, kalamata, vous me répondez Grèce. Bonne Grèce. Direction le Péloponnèse, autour de la région de Kalamata, avec un guide franco-grec qui est Pierre-Julien Chantios. Bonjour.
Bonjour.
Vous sourcez les meilleurs produits de Grèce pour Kalios, la marque d'épicerie très fine que vous avez fondée il y a quelques années avec votre frère Grégory. Hein.
Exactement, j'ai repris l'olivier familial et on a lancé la marque Alios il y a 8 ans.
Et il y a un livre, son titre dit tout, La cuisine, la famille et la Grèce, Kalamata aux éditions Caribus. On a été assez fan de cet ouvrage, un très bel album qui sent le vécu, la vraie vie, la vraie Grèce, avec des photos brutes, très belles, prises sur le vif par le photographe Martin Bruno. Il y a aussi les textes sensibles de Julia Samut, une amie qui est journaliste et épicière à Marseille. Il y a les recettes évidemment de la famille Chantios. On va parler plein de choses en fait. Vous nous avez apporté notamment un énorme mastodonte qui ressemble à du pain.
J'ai amené un gros pain maison à l'huile d'olive.
À l'huile d'olive, il y a également l'inévitable salade grecque. On va voir si elle existe vraiment ou si c'est un fantasme. Également, petite leçon de tzatziki, si je prononce pas trop mal.
Exactement, voilà. Avec quelques petites astuces.
Et on va voir ça avec vous, Pierre-Julien.
Il n'y a pas un genre de gâteau à l'orange aussi, non?
Ah oui, bien sûr, il y a évidemment le gâteau à l'orange, mais alors ça, je comptais en faire une surprise, mais enfin, vous dévoilez tout, c'est très bien. On va découvrir ces recettes, on va même pénétrer dans l'intimité de votre famille et de votre fief en Grèce, grâce à Lénora Krief. Bonjour Lénora.
Bonjour François-Régis. Et oui, je vous ferai entendre mes aventures gourmandes avec la famille Chantios à Neokori Itomi, leur village donc situé au sud du Péloponnèse.
La Bénarde.
Ouais, et vous allez voir ça.
J'en ai donne la chance.
Elvira Masson, bonjour.
Bonjour. Alors, à tous.
Vous parliez à l'instant d'un fameux gâteau à l'orange. Ça, c'est une très très belle surprise que nous a apporté Pierre-Julien Chantios. Et dès qu'on parle de gâteau à l'orange, évidemment, Elvira Masson ramène sa fraise.
Un gâteau à l'orange en grec, c'est portocallo.
Portocallo pita.
Donc portocallo, c'est
portocallo, orange. Portocallo, c'est l'orange et pita, c'est la base en fait, la pâte.
D'accord.
La
galette. Donc je suis tout simplement portocallophile.
C'est ça, portocallophile. Et
vous allez. Je suis fan de gâteau à l'orange où qu'il se trouve dans le monde.
Et vous allez nous le démontrer à travers une recette qui, je crois, est réussie.
Pour une fois.
Ah non, j'ai pas dit ça, mais elle a franchement l'air appétissante, ça je peux vous le dire. Michel Billou, Nadia Chougui, Nicolas Delmas, Mitton, l'émission derrière la vitre de la régie. Djoubaka pour la programmation musicale. Faites-nous partager vos souvenirs gourmands de Grèce sur onvadéguster@radiofrance.com. Il y a également Twitter avec le mot-clé onvadéguster et surtout retrouver les recettes de Kalios et de Pierre-Julien Chantios et sa famille sur franceinter.fr.
On va déguster les saveurs de l'été.
Mettez vos lunettes de soleil de préférence, sortez votre fourchette, on vous emmène en voyage en Grèce. Cap sur Kalamata.
En plein milieu du jardin et vue sur les montagnes, c'est sympa quand même. Hein?
Ah oui, c'est très sympa. Ouais. On mange dehors, toujours dehors. En Grèce, on vit dehors. 6 mois dans l'année, on vit dehors, on mange dehors, on est toujours dehors. On rentre à la maison que pour dormir.
C'est souvent comme ça, les voisins passent et on les invite à boire un verre.
Étant donné qu'on vit toujours dehors, tous les gens qui passent, on les voit. une fois qu'on est à table, on est obligé de les appeler, de venir boire un verre avec nous. Voilà, des fois, on se met trois à table, on se trouve 10 à la fin du repas. Vous avez le fameux cochon au four, au citron et aux pommes de terre.
Et c'est votre sœur qui l'a préparé.
C'est ma sœur qui a préparé le plat, oui. Ça, c'est la fameuse feta des brebis. Voilà, on va l'ouvrir. On le goûte toujours à la main. Vous prenez à la main et vous goûtez.
C'est vrai qu'elle est onctueuse, pas trop salée.
Pas trop salée.
Bon goût de lait.
En France, on trouve souvent la feta faite avec du lait de vache. Donc, elle n'est pas onctueuse, c'est très sec. Et c'est dommage pour l'appellation feta. Ça n'a rien à voir avec la vraie feta. On rajoute un peu d'huile d'olive, un peu d'origan, mais...
L'huile d'olive, évidemment.
Avec tous les mets, tous les plats sur la table, que ce soit de la viande, que ce soit des légumes, que ce soit du pain grillé ou du pain naturel. La feta, elle reste à table pendant tous les repas. On commence le repas et on finit le repas avec la feta.
Lénora, vous avez quand même eu la chance de suivre la famille Chanchos jusque dans les jardins de la maison familiale.
Et oui, et le moment du déjeuner est vraiment particulier. On met tous les plats au centre de la table et surtout, on prend le temps de se poser et savourer. C'était vraiment un moment hors du temps.
Qui était au micro?
Alors là, on entendait Vassili, le père de Pierre-Julien.
C'est votre papa.
Exactement.
Qui est donc grec.
Il est grec.
C'est votre moitié grec.
Voilà, ma mère est française et mon père est grec. De Neokori Itomi, qui est un tout petit village juste au sud-ouest du Péloponnèse. En fait, on est au-dessus de Kalamata, la ville qui est connue pour ses olives.
Alors, c'est vrai que tous les auditeurs n'ont pas forcément leur géographie de la Grèce très bien en place. Donc, on est dans le Péloponnèse, c'est donc le continent. Hein.
Exactement, c'est une immense presqu'île en fait, qui est dans la partie sud-ouest de la Grèce. Et nous, on est dans un tout petit village qui est dans les montagnes, qui est connu pour être le village où a grandi Maria Callas quand elle était petite.
Ah, quand même.
Voilà.
Ah,
donc il y a un panneau, ils sont très fiers d'indiquer « Ici a vécu Maria Callas ».
Pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, comme moi par exemple, alors ils peuvent, pour se faire une idée de la beauté de la région, se tourner vers « La cuisine, la famille et la Grèce, Kalamata ». C'est un très très beau livre aux éditions Kéribus. Comment vous pourriez nous décrire les parages, les environs? On est évidemment... Donc c'est dans un climat méditerranéen.
Exactement. C'est très sauvage, en fait. Il y a peu de touristes qui viennent aujourd'hui à Kalamata. On est à 2 heures d'Athènes. Donc, on peut arriver à Athènes, prendre une voiture et en 2 heures, on est à Kalamata. Mm-hmm. Et c'est très montagneux. On est au bord de l'eau en même temps. Donc, voilà, on va retrouver des terroirs assez différents. On peut se balader sur le bord de mer, dans les terres aussi. Nous, on est vraiment dans les montagnes. Et ce qu'on appelle, c'est la vallée des oliviers. Il y a des oliviers à perte de vue.
Des oliviers partout, des océans d'oliviers. Et il y a aussi du maquis, hein, région typique de la Méditerranée.
Exactement. Un petit peu comme en Corse, un peu. Moi, ça me fait penser, quand on se balade en Corse, on est très proche de notre Grèce.
Ah, là, vous me prenez par les sentiments, évidemment, la Corse. Quand Lénora nous a rapporté ce son, je lui ai dit « Non mais t'as trouvé le moyen de nous faire un déjeuner avec une salade grecque, de la feta, t'as demandé en fait à tout le monde de rapporter des clichés, c'est une blague ou ça se passe vraiment comme ça ?»
Tous les midis, c'est l'été, c'est la salade grecque. Il y en a vraiment à tous les plats. Même...
Donc pour une fois, on ne caricature pas un plat grec en France quand on mange une salade grecque. Enfin, si tant est qu'on la fasse bien.
C'est vraiment le plat qu'on retrouve à tous les repas, midi et soir.
Définition d'une salade grecque.
Salade grecque, c'est très facile. C'est une bonne tomate, c'est une feta, une vraie feta.
Donc c'est pas facile, une bonne tomate déjà.
Donc on réserve l'été,
c'est vrai,
justement.
C'est vrai.
Et de l'oignon, concombre, bien sûr. Et surtout, les olives Kalamata et une bonne huile d'olive. Voilà, la salade grecque, la vraie, elle doit baigner dans l'huile d'olive. Et le meilleur, c'est à la fin, quand on va avec le pain, saucer cette huile.
Voilà, alors ça c'est effectivement le grand jeu, c'est ce mélange en fait d'huile d'olive avec un peu d'assaisonnement, il y a l'eau des tomates, qui a ce côté fruité et acidulé, tout ça avec une mouillette de pain, évidemment, ça fonctionne parfaitement. Feta, il y a feta et feta, Elvira ?
Bah, la feta, c'était une grande bataille juridique entre la Grèce, les Pays-Bas, le Danemark, la France, qui produisait abusivement de la fausse feta, entre guillemets, qui est jusqu'en 2005 avec le droit d'en porter le nom. Mm-hmm. Mais depuis un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, en 2005, après cette bataille juridique, seule la Grèce a le droit dans l'Union européenne, d'employer le mot de feta. C'est une AOP et une IGP. Donc la marque que l'on connaît, bon lait de brebis, entre guillemets, qu'on trouve au supermarché, ne peut plus s'appeler feta. Elle s'appelait feta auparavant.
C'est ça.
Elle porte désormais le nom de la marque.
Sachant que le produit que vous dégustez sur place et que vous rapportez aussi par l'intermédiaire de Kallios, hein, votre enseigne, exactement, votre commerce de produits très très fins en provenance de Grèce, c'est un goût, on va goûter d'ailleurs, irremplaçable.
Une bonne feta, déjà, c'est un bon lait à la base. Et chez nous, les brebis et les chèvres, elles mangent ce qu'elles trouvent autour d'elles. Donc, on va avoir un lait qui a beaucoup de goût.
Et puis ensuite, c'est qui a une force aromatique, hein, qui a des arômes de maquis.
Exactement. Et ça évolue suivant l'année. On va avoir des côtés herbal, végétal. Et puis, à d'autres moments, ça va être un peu plus prononcé. Voilà, ça évolue. Et
les crus,
ouais.
Mais c'est pas une obligation dans l'AOP feta. On peut très bien avoir du lait pasteurisé.
En local, on la mange au lait cru. Et puis, bon, ici, quand on la ramène en France, c'est au lait pasteurisé pour pouvoir la garder, bien sûr. Voilà. Faut qu'une bonne feta, elle se tienne, qu'elle soit pas sèche à cœur et en même temps qu'elle s'effrite pas trop.
Elle est onctueuse aussi, cette feta. Hein. C'est vraiment
la différence. Elle est onctueuse, elle a une texture formidable et une amplitude aromatique, c'est carrément impressionnant. Ah, là, qu'est-ce que vous sortez?
Je vous ai ramené un petit peu d'origan sauvage. Voilà. Ça, c'est l'origan. Faut parsemer la feta d'origan.
Ça, c'est obligatoire. Hein. L'origan, c'est donc une herbe sauvage que vous cueillez dans le maquis, que vous faites sécher et que vous utilisez comme un condiment.
C'est un peu comme notre herbe de Provence. Voilà, on va utiliser avec les sauces tomates, les viandes, bien sûr la salade grecque et sur la feta.
Et dans cette salade grecque, l'origan remplace le poivre. Parce que moi, j'ai vu effectivement Vassili l'a préparé. Il n'y a pas de poivre dans une salade feta. Et donc effectivement, je l'ai vu badigeonner ensuite d'huile d'olive.
Et est-ce que la feta remplace le sel ou vous salez en plus?
On sale un petit peu les tomates, mais la feta est déjà salée, ouais. Et c'est vrai que l'origan, ça amène ce petit côté épicé qui remplace le poivre.
Admirable. Et puis presque un peu mentholé aussi. Question importante. Évidemment, Kalamata, c'est l'un des berceaux grecs de l'olive. Mais il y a l'olive de deux façons, sous deux formes différentes dans cette salade grecque. À la fois une olive de table, hein, élément indispensable de la salade grecque, mais également l'huile d'olive. Il ne s'agit pas du même fruit.
C'est deux olives vraiment différentes. Oui. Donc je vous ai ramené là l'olive de Kalamata, qui est l'olive de table, la grosse olive violette.
Alors ça, c'est une olive qui est conservée en saumure.
Alors,
ou à l'huile.
On peut faire les deux pour la préparer. Donc c'est cette belle olive-là.
Oh, regardez-moi ça. Vous pouvez nous la décrire?
C'est
pour ceux qui n'ont pas l'image.
Qui est très charnue. Elle ressemble. Elle a une forme un petit peu comme un ballon de rugby, de couleur violette. Voilà. Ça, c'est l'olive Kalamata. On la prépare en saumure.
Avec son noyau.
Avec son noyau, c'est le meilleur du goût est autour du noyau, donc on évite de les dénoyauter.
Qu'est-ce qu'elle est puissante?
Incroyable.
Une force aromatique incroyable.
Elle est pulpeuse sans être trop croquante, elle est quand même assez fondante.
Exactement, il y a une bonne mâche, mais elle reste fondante. Et nous, on la prépare comme fait la grand-mère, la yaya, marinée dans l'huile d'olive.
On va en parler de votre grand-mère, évidemment. Et vous la préparez marinée à l'huile d'olive, vous la commercialisez comme ça d'ailleurs. Et ensuite, il y a l'huile d'olive qui n'est pas faite avec cette olive de table, donc qui n'est pas faite avec la variété olive de Kalamata.
Exactement, donc l'huile d'olive de Kalamata, qui est une AOP, est produite à partir de la variété Koroneiki, qui est une petite olive verte.
D'accord, et on peut goûter une huile d'olive? Comment il faut imaginer son profil organoleptique?
Alors il y a vraiment différentes typicités, c'est pour ça que nous on travaille en monovariétal, on ne mélange pas les olives, et on voulait montrer qu'avec la même variété, on peut faire des huiles complètement différentes.
Donc là vous n'avez que la Koroneiki, donc la différence entre les différentes huiles d'olive, c'est finalement la maturité du fruit.
Exactement. Et ensuite, on va ramasser entre novembre, troisième semaine de novembre et fin janvier. Donc au début, c'est des huiles qui sont beaucoup plus végétales, herbacées, sur l'olive verte. Et ensuite, donc là, je vous fais goûter une huile jeune.
Alors c'est Elvira qui va se prêter au jeu. Ah, une huile jeune, donc on est censé être dans le piquant, l'ardence?
Exactement. Le côté herbacé, végétal, on bouche l'artichaut, l'herbe fraîche. Et ça, c'est une huile qu'on ramasse. On ramasse l'olive en haut des montagnes, avec des petits oliviers.
Je veux bien un petit morceau de votre pain géant.
Ah, je vous ai ramené le pain.
Ah, c'est la fête aujourd'hui.
Même si l'huile doit se goûter sans pain.
Absolument tout ce qu'il faut pour. En fait, c'est tout simplement la diète crétoise, la diète méditerranéenne, hein, ni plus ni moins.
Voilà.
Ouais. Ça, si on vit pas centenaire avec tout ça.
Ouais.
Avec toujours le pain, du partage, le pain.
À la tranche de pain. Je tourne la tête et je m'aperçois.
C'est pas un petit morceau de pain. Non, mais c'est juste,
en fait, on peut dire que cette tranche de pain a la taille d'une côte de bœuf. Et l'épaisseur d'une côte de bœuf, en fait. Ah oui, d'accord. Mais attendez, vous rigolez. C'est le pain comme ça qu'on utilise en.
C'est le pain qu'on utilise à l'huile d'olive.
Là, j'ai 3 kilos dans la main pour une tranche.
Voilà, c'est les portions grecques.
Alors, cette huile d'olive?
Tout ce qu'on aime. Elle est ardente, elle est un peu artichaut. Elle a une belle couleur verte, presque comme ça. phosphorescente presque, mmh, magnifique.
Et vous avez des fruités
un
aussi
peu poivré, un peu
poivré, un peu poivré, tout à fait, un peu piquant, ouais. Et vous avez des profils qui sont plus vers le fruité mûr, le fruité noir.
Exactement. Là, on a une deuxième huile qui est ramassée. Donc, un petit peu plus tard, on est dans les plaines. L'olive, ouais, elle est passée du vert au violet. Et quand on presse cette olive-là, on va avoir une huile beaucoup plus ronde, presque beurrée, sans amertume.
Ben là, c'est Lénora qui va goûter. Enfin, si vous l'autorisez, elle dira.
Ça ne fait que transiter par moi.
Ah oui, c'est quand même quelque chose. Hein. Là, l'appétit.
Les huiles vertes, on va les utiliser avec les salades et les crudités. Ça a amené du peps, ça a amené du goût sur l'olive verte. Là, on est sur une huile mûre qui va accompagner un poisson, par exemple, où on veut apporter le goût de l'huile, la rondeur, enrobée, mais sans dénaturer le produit.
Pierre-Julien Chantios nous emmène dans son fief familial à travers à la fois une très belle entreprise, à travers également un livre qui vient de sortir. On va continuer évidemment à égrener les saveurs de votre Grèce quasi natale.
De bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu, que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu, que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du pied. Aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu, que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu, que j'aime sous leurs bonnets anges tous les visages d'anges des enfants du.
Pierre-Julien, là, vous êtes en train de préparer un café grec.
Voilà, Yaya me montre comment elle fait sa recette de café grec pour deux personnes.
Donc il y a la petite tasse en cuivre.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on peut le faire uniquement sur les anciens réchauds à gaz. Donc là, elle vient de mettre deux cuillères à café.
Café moulu.
Café moulu et deux cuillères de sucre. Yaya, toi là.
Et toi, la carte, c'est toi qui vas le faire.
Donc elle me donne l'ordre de le remuer, de le mettre sur le feu. Etsy, donc je remue et je le mets sur le feu. Il est taxi. Elle me dit que c'est prêt.
Ça va?
Très bon.
Alors, Lénora, votre bizutage autour du café grec,
eh bien,
ça s'est passé comment?
Très bon, c'est vraiment un café fort en arômes, bien structuré et surtout gros, doux grâce au sucre en fait, qui est déjà dans la préparation. Alors, on a le choix hein, de le demander avec ou sans sucre,
Mais voilà, là en l'occurrence, il était préparé avec du sucre.
Un café grec intègre en général le sucre, Pierre-Julien ?
Le café grec, c'est sketo ou glico. Sketo, c'est sans sucre, glico avec le sucre. Mais c'est vrai que beaucoup le consomment avec sucre.
J'ai peur de faire une confusion. Est-ce que c'est ce qu'on appelle dans nos esprits de français le café turc, où il y a une différence ?
C'est assez proche en fait, c'est avec le marc du café qui apporte toutes ces odeurs justement. Avant de le boire ce café, on va le sentir. Et ça rappelle des souvenirs, moi c'est les souvenirs d'enfance.
Je suis à la page de votre, à la page 18 de votre livre avec une photo très émouvante de Yaya. Quel âge a-t-elle avec son joli visage parcheminé, mais c'est affectueux dans ma bouche.
Yaya, elle a 84 ans.
Yaya, c'est?
Yaya, c'est la grand-mère, c'est mamie. Hélène, elle s'appelle Hélène.
Yaya, ça veut dire mémé?
C'est exactement, c'est ça. C'est ça. Et bah, c'est la matriarche de la famille. Yaya, c'est elle qui nous a transmis l'amour du produit, la cuisine. Et ce livre, justement, bah, c'est un livre de transmission. Moi, c'était important. Je voulais pas perdre toutes ces recettes de la Yaya, de la famille.
C'est votre testament, votre témoignage. C'est une façon de faire partager, en fait, votre univers, votre histoire de famille qui tourne beaucoup autour des saveurs de Grèce.
Un petit peu. C'est un livre de cœur, vraiment.
On voit Yaya sur cette page, armée d'une grosse râpe qu'on pourrait utiliser a priori comme ça pour du parmesan. Elle tient dans une main une grosse tomate. Alors elle a l'air bonne cette tomate, hein. Elle a l'air bien rouge, bien mûre, bien sucrée, bien ensoleillée. Que fait-elle ?
Ah bah justement, un des premiers mots du livre, c'est Yaya râpe la tomate. Voilà, en Grèce, quand on arrive au village, Yaya râpe la tomate et elle nous prépare le coq en sauce tomate. Je vous ai ramené la râpe. Donc c'est à partir de cette râpe qu'on cuisine en Grèce.
Regardez-moi ça. Alors décrivez, il faut nous la décrire, ça ressemble en fait à une espèce de parallélépipède à peu près, hein, avec des tailles de lames différentes.
Exactement, donc on prend les grosses lames pour tailler la tomate, pour la râper, et ça sert de base à toutes nos sauces tomates. D'ailleurs j'ai une petite astuce pour la sauce tomate.
Mais déjà pardon, mais le fait de la râper la tomate, c'est quand même pas très commun, les Italiens font pas vraiment ça.
En Grèce, tout le monde fait ça, c'est vrai.
On râpe la tomate.
Ouais. C'est ce qui ça apporte tout le goût, moi, je trouve, de la tomate. On laisse la peau à l'extérieur. Et voilà, c'est une façon différente de préparer la tomate.
Vous en étiez donc au secret.
Voilà. Yaya, c'est sa sauce tomate. Et c'est vrai qu'elle la faisait, elle nous l'a fait tout le temps. Et j'arrivais pas à la faire, moi, ici en France.
Comment on pourrait s'y prendre s'il y a de bonnes tomates qui nous tombent dans les mains?
Donc, je l'ai regardée parce que, voilà, elle donne pas tous ses secrets.
Ouais.
Et c'est très simple. En fait, elle râpe la tomate et elle la démarre sans huile ni rien dans la poêle.
À sec.
À sec. Du coup, en fait, la tomate va perdre son eau. Et elle va se concentrer en goût. Donc pour tout départ d'une bonne sauce tomate, on la départ sans huile. Et l'huile vient à la fin avec justement le sel, le poivre et les herbes.
Comme un assaisonnement.
Exactement. Le basilic, la menthe, on va rajouter.
La menthe. Mais... Ah, ça c'est un autre secret alors.
Voilà, c'est...
Sauce tomate avec de la menthe, du basilic, un peu d'origan que vous nous avez apporté ou pas vraiment ?
Pas d'origan, non.
D'accord.
À la fin, une fois qu'elle est terminée, beaucoup d'huile d'olive et menthe, basilic.
Mais pas d'oignon, pas d'ail ?
Rien du tout, pur, juste une bonne tomate.
J'ai une bonne nouvelle pour vous les amis qui êtes derrière votre poste de radio. La recette de sauce tomate de Yaya est en ligne sur franceinter.fr. À la page, on va déguster...
Mais on fait quoi juste avec cette sauce tomate ?
Ah bah alors, soit un coq, non ?
Le coq en sauce tomate, tout simplement les pâtes à la tomate. Et puis après, ça peut servir avec les boulettes de viande, on peut faire plein de choses.
Voilà, vous la mettez en conserve et puis vous sortez votre sauce tomate quand vous en avez besoin.
D'ailleurs, votre recette de boulettes de viande dans le livre, elle a l'air assez terrible.
C'est sûr. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler.
C'est dommage.
Vous faites un peu de teasing pour des recettes qu'on ne veut pas évoquer, mais c'est vrai qu'elles ont l'air terribles, je suis assez d'accord. D'autant que les photos de ce livre, il faut le repréciser, sont absolument superbes et superbes de vérité. Péloponnèse, terre d'accueil des agrumes en général et des oranges en particulier, Lénora.
Et oui, en chemin avec Pierre-Julien et Vassili vers Coronie, on a fait une halte pour s'apprivoisonner en fruits et pas n'importe quel fruit. À 83 ans, Yanoula est réputée pour ses fameux agrumes qu'elle vend dans son petit kiosque sur le bord de la route. Sur l'étal, des oranges, citrons, mandarines, bergamotes, ainsi que de délicieuses confitures de fruits confits. Notre agricultrice nous emmène dans son orangerie avec ses fleurs, des agrumes qui maintiennent en forme, parce que c'était pas du tout évident de suivre Madame Yanoula.
Ah bon, 83 ans,
au milieu
Yanoula.
Des orangers.
On la suit.
Θα σε κάνει διάσημη στο Παρίσι.
Πάρα πολύ καλό.
Και τούτο είναι μαρμελάδα από πορτοκάλι.
Περκαμότ.
Είναι γλυκό με το κουτάλι.
Madame est réputée pour ses oranges. Hein.
Ses oranges, oui. Elle fait des jus d'orange, la confiture d'orange et l'orange entier qu'on mange à la cuillère.
Ici, on se trouve dans votre verger où il y a beaucoup d'orangers.
Αυτό είναι mandarinia.
Mandarine, vous avez l'orange à côté et le citron à côté.
Αυτό είναι φτιάμε γλυκό.
Ça c'est bergamote.
Ça sent hyper bon.
Les agrumes dans la région sont vraiment réputés. Hein.
Oui, c'est très réputé. Il y a énormément d'agrumes dans la région.
Qui est-ce qui est au aérodrome? Που λέτε μικρομάνια, εκεί μέσα πάλι είναι κάτι περιβόλια.
Il y a deux sortes d'oranges, des oranges à faire du jus d'orange et des oranges à manger, à table. Et à côté de ça, il y a aussi deux, trois qualités de mandarine, pour, pareil, pour manger et faire du jus de mandarine.
C'est magnifique, tous ces orangers.
On est bien là, au milieu des oranges.
Trava tutte le quatre.
Elle veut absolument vous offrir les oranges.
Trava de quatre, 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 quatre.
Et là, tout
le monde.
Oui, là. Oh, là, tout le monde.
On copie, on copie.
Sur le jus.
Bien juteuse.
Là. Elles ne sont pas complètement mûres et elles risquent d'être un peu acides. On trouve quand même la saveur.
Elle est déjà hyper bonne. Hein.
Elle est déjà vraiment très très bonne. Là. Elle n'est pas acide. Hein. Elle est douce.
Encore une dizaine de jours pour que soit complètement mûre. Pour ça.
Et tout a commencé à baisser à partir de octobre. C'est la calocérina.
Ça, c'est les oranges de l'été. On commence à ramasser d'ici une dizaine de jours et la récolte dure jusqu'à mois d'octobre. Et l'autre variété, on commence début novembre jusqu'à fin mars. Ça fait qu'on a deux oranges toute l'année.
Cette variété, comment elle s'appelle exactement?
Valeggio, Valeggio.
C'est la Valenciana.
C'est la
Valenciane.
C'est, ça vient de l'Espagne, la qualité Valencia.
Et c'est marrant parce qu'elles viennent d'ailleurs, en fait. C'est une variété espagnole. Mais ici, elle évolue très bien aussi avec le climat de la région.
Ναι, είναι το κλίμα.
Σε το κλίμα και la terre.
Πολύ νόστιμα εδώ. Τη Ισπανία δεν είναι καλά.
Είναι bien plus sucré ici qu'en Espagne. Et sont beaucoup plus juteux ici qu'en Espagne.
Et qu'est-ce que vous faites avec vos oranges de bon?
Και τα πίνουν. Τα άλλα τρώνε, άλλα στίβουν.
Soit on fait du jus d'orange, soit on le mange à table.
Άλλοι τα στίβουν, άλλοι τα τρώνε.
Parce que Pierre Julien m'a dit que vous faisiez un bon gâteau à l'orange.
Ναι. Το στίβουμε. Και τρίβουμε και πορτοκάλι.
On presse, l'orange, après on rap le geste.
Ο Πέτρος το έχει γράψει.
Pierre sait très bien, il a déjà participé à
la coupe. Dans le livre de Pierre Julien.
Ναι, το κόψαμε εδώ, ήφερε η Αμαλία εδώ, το κόψαμε, τα πάνε και φάγαμε, ωραία.
Oui, il y a quelques temps de sang, il était venu, on a préparé le gâteau, on l'a coupé, on l'a dégusté ensemble.
C'est difficile de la suivre, Yanoula.
Madame Yanoula, c'est une pile électrique.
Elle est en forme.
Les perpatates grigora, les gars de l'Iguia, c'est poli grigora.
Bon, moi, en tout cas, arrivée à Paris, j'essaye de faire un gâteau à l'orange avec vos oranges.
Merci beaucoup.
Lénora Krief a-t-elle relevé ce défi du gâteau à l'orange et au yaourt qui vient de Grèce, oui?
Et oui. Ça y est, il n'en reste plus, hein, ça y est, je l'ai mangé.
Vous l'avez fait avec quelles oranges?
Je l'ai fait avec les oranges de Yanoula et c'est le
secret. Vous avez rapporté des oranges de
Yanoula? Dans la valise.
Sans nous en donner une.
Désolée, c'était au mois de mai. Et j'ai tout mis dans le gâteau. Et alors
il était réussi.
Et c'était réussi. Alors là, il y a effectivement sur la table, il y a le gâteau de Pierre Julien. Je sais pas si je l'ai aussi bien réussi, mais c'est vrai que le secret, c'est d'avoir de bonnes oranges. Et là, les oranges de Yanoula. Et en plus, avec de l'huile, parce qu'il faut mettre de l'huile et l'huile Kallios. Alors là, on a un gâteau fameux.
Non, mais c'est prodigieux, non?
Prodigieux.
Non, mais c'est incroyable.
Et c'est surtout inédit, on ne sait pas vraiment ce qu'on... Enfin, c'est une texture qu'on n'a pas goûté auparavant.
Julia Samut, qui a donc écrit les textes de ce livre, m'avait parlé de ce gâteau à l'orange depuis des lustres. Il me tardait de le goûter, je peux vous dire que je ne suis pas déçu. Pourtant, Dieu sait si on m'en a parlé, qu'il y a eu beaucoup de... On m'a fait envie avec ce gâteau. Racontez-nous le secret de ce gâteau, en fait.
En fait, Yaya Yanoula, mamie Yanoula, c'est une dame qui produit les oranges à côté de notre terrain d'olivier en bord de mer.
C'est ça.
Donc on passait devant tous les jours et on s'arrêter, lui acheter les oranges. Mmh. Et c'est vrai que cette dame, elle a une énergie mais incroyable.
Oui, votre père dit que c'est une pile électrique.
C'est une pile électrique, elle court partout à son âge, elle doit avoir 80 et quelques années.
C'est la vitamine C, hein.
C'est ça, c'est l'orange. Hein. Et je lui ai demandé justement pour le livre, parce que je voulais sa recette du gâteau à l'orange. Elle me dit, repasse demain et je vais te donner la recette. Et elle avait fait traduire par sa fille la recette en français. Et elle m'a apporté un gâteau pour 20 personnes à l'orange, qui était le meilleur gâteau que j'avais jamais mangé à l'orange.
Hein. Merci Yanoula.
Donc je l'ai mis dans le livre.
Et là, vous faites chez Yaya, qui est un restaurant que vous avez ouvert à Saint-Ouen il y a quelques semaines d'ailleurs.
Il y a trois
autour
semaines.
De votre univers gustatif. Ça s'appelle Yaya, c'est un hommage à votre mémé.
Exactement. Et on fait la recette justement du gâteau à l'orange et d'autres recettes de la Yaya.
Comment on le fait ce gâteau?
Le gâteau, c'est il faut de la pâte philo en fait, c'est la chose la plus compliquée
à trouver. Très facile à trouver.
Oui.
Voilà, c'est facile. On les miette
dans la plupart des supermarchés.
Du yaourt, de l'huile d'olive, du sucre. Le yaourt, c'est hyper important. Mmh. C'est le vrai yaourt grec. C'est pas le yaourt à la grecque. C'est le yaourt grec.
Oui, mais alors là, on trouve où le yaourt grec ?
Plus compliqué.
On le trouve, bah, si je peux citer,
crois que vous avez un plan.
Monoprix. voilà. C'est pour moi le plus facile et le meilleur qu'on trouve en France aujourd'hui.
Le
yaourt Total, il s'appelle.
Yaourt
Total.
Total.
Voilà.
Et de chez Monoprix.
Exactement.
C'est un yaourt grec.
C'est le seul aujourd'hui qu'on trouve facilement en France.
Vous le validez.
Voilà. Et c'est entre le yaourt et la crème fraîche, en fait. C'est une texture assez épaisse. On le dit stragisto aussi, égoutté, drainé. Donc c'est la base de le yaourt, le gâteau à l'orange, pardon, et les autres choses qu'on va goûter après.
Texture extrêmement moelleuse et fondante. On sent d'ailleurs des petits morceaux de zeste. Vous mettez l'intégralité de l'orange. C'est l'écorce, le jus,
exactement,
la pulpe.
Et donc il faut une très bonne orange à la base, hein, c'est hyper important. Nous on les ramène de Grèce, Yanoula nous en sert une partie de l'année, et c'est ce qui va donner tout le goût au gâteau.
Et non traité, fatalement.
C'est hyper important, si on met le zeste, il faut une orange bio. Ouais.
Heureusement, l'orange est désormais un fruit qu'on peut trouver tout au long de l'année, et de qualité, donc il faut s'orienter de préférence vers une bonne orange, évidemment. Plus l'orange est bonne, meilleure l'orange est bonne, meilleure est l'orange, meilleure est le gâteau, c'est
exactement
ça que je voulais dire.
Et pour accompagner ce gâteau, je vous ai amené un vin grec, justement un vin nature, qui vient de Kefalonia. C'est un Sklavos, c'est à partir de la variété Zakynthinos.
Wow.
Et on fait maintenant de très grands vins en Grèce, qui sont d'ailleurs servis à la table des plus grands chefs. Hein,
avec des notes oxydatives, là.
Là, on est sur un vin de macération,
ouais.
Donc, avec la peau du raisin, ce qui lui donne cette couleur un petit peu orangée. Et on est sur une île, donc on a ce côté iodé aussi, mm-hmm. Et il se marie parfaitement avec le gâteau à l'orange.
Et il est sec, il a même de beaux amers en finale de bouche, et surtout il a une couleur effectivement assez impressionnante avec ses reflets dorés. En voilà un bel élixir pour accompagner ce gâteau à l'orange dont vous nous rappelez le nom grec.
Portokalopita.
Et on peut retrouver la recette sur franceinter.fr à la page, on l'a dégusté. Alors
cerise
sur le gâteau, ou plutôt orange sur le gâteau avec vous Elvira, c'est votre chronique consacrée au gâteau à l'orange justement.
Comme vous le disiez, meilleur est l'orange, meilleur est le gâteau. C'est un peu ce que vous essayez de nous dire,
oui,
à votre façon.
En
tout
bon
à
français, ouais.
Et donc, effectivement, je me suis également fournie, moi, en orange de type Valencia pour suivre les traces de l'Enora. J'observais, en réalité, que quand j'ai découvert votre recette dans le livre, que j'ignorais absolument l'existence de ce gâteau. Et soudain, je me suis rendu compte que l'orange, finalement, était une saveur qui était un peu perdue de vue. Elle a un peu disparu en pâtisserie.
C'est un peu désuet.
Un peu désuet. Elle s'est fait un peu damer le pion par le citron.
C'est vrai.
La petite orange un peu modeste.
Qui est plus tonique, qui a plus d'acidité, donc plus flatteur.
Oui, des tartes au citron, on en trouve à la pelle dans toutes les pâtisseries un peu lancées. L'orange a un peu disparu. Elle a un côté justement un peu rétro. L'orange givré, les crêpes Suzette, orange mandarine.
Avec le Cointreau.
La rosace à l'orange, le Gaston le nôtre. Vous avez cette espèce de génoise qui était recouverte de tranches de tranches d'orange. Les orange drizzle cakes en Grande-Bretagne, il y a un côté comme ça un peu patrimonial, scandinave, anglo-saxon. Ça m'a fait penser aussi à une recette qu'avait partagée ici une autre cuisinière du soleil, pourrait-on dire, André Zana Murat.
Ah bon, on s'en souvient.
Dite Zana.
D'origine tunisienne.
Oui, qui nous avait fait goûter son épatant gâteau à l'orange et à l'huile d'olive.
Là aussi, on est en Méditerranée.
Qui aurait pu figurer, à mon avis, dans votre livre, tellement c'est un peu la même famille.
Il faut que vous écriviez un livre sur le tour du monde des gâteaux à l'orange, Elvira.
Peut-être qu'il faut faire ça, en fait. La recette de Zana, c'était de la farine, du sucre, deux oranges, trois œufs, de la levure et quand même 25 centilitres d'une bonne huile d'olive.
Ouais, ça fait bon. En même temps, il y a pas de beurre. C'est l'huile d'olive qui fait office de
matière grasse.
Il y a pas de farine, dans votre gâteau à l'orange grec.
Pas de farine, juste la pâte.
Julien, juste la pâte.
Alors justement, rien de commun entre le gâteau que je vous ai apporté, qui est un gâteau d'inspiration anglo-saxonne, gâteau à l'orange et à l'amande, orange donc de type Valencia. Rien de commun entre celui-ci et le vôtre, si ce n'est effectivement que dans le mien, il y a pas de farine non plus, qu'il n'y a pas de beurre comme dans le vôtre. En revanche, il y a beaucoup de sucre.
Mais d'où vient, parce qu'il est franchement fameux, vous l'avez goûté ?
Non. Attendez, je vous le passe tout de suite.
D'où vient ce moelleux extraordinaire ?
Eh bien, c'est tout simplement le mélange, je vais vous dire. Il y a beaucoup, beaucoup de poudre d'amande, il y a 6 œufs et beaucoup d'orange. On fait cuire à grande eau, dans une casserole, 2 oranges entières et un citron.
Ah.
On les fait cuire pendant 1 heure, on les porte à ébullition, les oranges et le citron. Une fois que les oranges sont cuites, on les passe au mixeur intégralement, on a juste ôté les pépins. Donc ce que vous mangez là, c'est un gâteau qui contient 100% du fruit.
Magnifique.
Hormis les pépins.
Combien de fruits vous avez dit ?
2 oranges.
D'accord.
Et un citron. Mais alors évidemment, comme on met des oranges entières avec la partie amère, le zeste, notamment la partie blanche, eh bien, fort heureusement, c'est compensé par du sucre. Enfin, fort heureusement, j'en sais rien. Mais il y a quand même, on peut dire, un bon paquet de sucre.
450 grammes de sucre en poudre.
Ah, quand même.
Voilà. Bah, il faut ça. Si on met deux oranges entières et un citron, avec la partie blanche, voilà. Un tout petit peu de beurre pour chemiser le moule, 6 œufs, 550 grammes d'amandes en poudre. Donc, le gras, le moelleux, se trouve aussi dans l'amande en poudre, parce que c'est quand même extrêmement gras.
Mais oui, mais c'est tellement mieux. D'abord, c'est un accent méditerranéen, et en plus, c'est un gras naturel, tout à fait bénéfique.
Et une petite cuillère de baking powder, de poudre, de poudre à lever.
Oui, vous pouvez le dire en français.
Cette recette est très largement inspirée d'un livre de pâtisserie anglo-saxonne qui fait mouche quand même à chaque fois. Il faut rendre justice. C'est le livre de Rose Bakery.
Eh ben oui.
Qui a plusieurs petites boutiques de pâtisserie, enfin, et de, un peu coffee shop, un des premiers coffee shops installés à Paris. Et toutes leurs recettes du répertoire un peu tea time anglo-saxon sont impeccables.
Bravo, hein, franchement. Voilà. Oh, la recette est sur le site.
Évidemment que la recette est sur le site.
J'ai envie de semer la zizanie dans sur ce plateau. Lénora, vous allez trancher entre les deux gâteaux à l'orange. Quel est le meilleur, celui de Pierre-Julien ou celui d'Elvira? Est-ce que vous l'avez goûté, Pierre-Julien?
Ouais, il est hyper bon.
Ah, quand même. Vous
connaissez. Il est hyper moelleux. Ouais. Et on n'a pas trop le sucre parce que l'amertume du zeste compense hyper bien.
Vous faites l'arbitre?
Il est moelleux, mais il est moins aéré que celui de Pierre-Julien, je trouve.
On ne peut pas dire qu'il soit aéré, mon gâteau. Ça, c'est...
Come my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over, my lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. Oh, my lady darling, it's true. I'll give my let me show you how. Let me show you now. I long to hear your voice 'neath the night forlorn and to gaze for a while into your eyes reborn. Though my mind sometimes gets weak and cold, you remain like a song in my heart and soul. When the rain is falling hard and the storm is far from over, you take away my sadness. Oh, lady darling, it's true. I give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. Oh,
C'était Roseau et Olé Niman avec le titre Heart and Soul. On va déguster ce dans la pilule en Grèce avec le restaurateur Pierre-Julien Chantios.
On va déguster ce mets à l'heure d'été.
Nous avons, Elvira, des réactions qui se bousculent sur notre mail.
Une très jolie réaction de Hélène Marchand qui nous écrit « Je suis amoureuse de la Grèce et des Grecs depuis toute petite. Je suis même devenue professeure de grec ancien. Peut-être parce que je m'appelle Hélène, comme la yaya de votre invité.
Ah, pas mal.
J'ai les larmes aux yeux en vous écoutant ce matin. J'aime la cuisine grecque et les olives de Kalamata sont les seules que j'aime. Une petite question, pourquoi ne trouve-t-on pas en France les agrumes grecs ?
Bon, on les trouve avec Kallios.
Ça va bientôt venir. On commence à les faire venir de Grèce.
Il y a des pamplemousses extraordinaires, on a parlé de l'orange, il y a du citron.
Bergamote, les cédras, on a des super agrumes. Et l'orange, elle est gorgée de jus et elle a pas d'acidité en fait, c'est ça la différence.
Terre d'agrumes.
Voilà qui va faire plaisir à Hélène.
Il y a peut-être d'ailleurs une petite goutte de citron dans la spécialité qui suit.
Donc là, on fait le tzatziki. Hein.
Tzatziki, on prépare le tzatziki.
Alors, ce yaourt grec, il est particulier. Hein.
Il est particulier, c'est très onctueux. Vous voyez ? Vous plantez la cuillère ne bouge pas.
Ah oui, c'est très épais là.
C'est très épais, voilà. Il faut qu'il soit très épais, parce que le tzatziki, il ne faut pas qu'il soit trop liquide.
Un concombre entier qu'on râpe.
Voilà. Ça y est, c'est râpé. On va les mettre dans un petit torchon propre pour les saurer, les faire gorger un peu.
Donc là, on a le concombre râpé.
On a le yaourt grec et l'ail haché.
Il faut vraiment essorer toute l'eau du concombre.
Voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas que le tzatziki soit liquide. Vous voyez comment ça coule.
Pour l'instant, votre sœur, elle est en train de mixer l'huile d'olive avec l'ail et
vinaigre,
le sel.
Un peu de vinaigre, un peu de sel et l'ail. Et les mixe au blender. On mélange les yaourts avec le concombre. Voilà, vous pouvez le goûter maintenant. Allez-y.
C'est frais, c'est bon.
Même pas 3 minutes, vous avez vu, c'était rapide.
L'été rime souvent avec tzatziki et on a même le droit de préparer cette spécialité quand on n'est pas en Grèce. De quoi s'agit-il exactement, Pierre-Julien ?
Tzatziki, c'est le yaourt grec avec le concombre, l'ail, un petit peu de menthe. Voilà. C'est ce qui accompagne en Grèce pas mal de plats aussi. On plonge les frites dans le tzatziki, avec la salade aussi, avec le pain. Voilà. Moi,
c'est
j'adore
la mayonnaise
le tzatziki. C'est ça. C'est le petit yaourt à la grecque.
On vous a lancé un défi, Pierre-Julien ? Je vous ai demandé au téléphone, quand on a préparé cette émission, si vous étiez en mesure de nous préparer un tzatziki en direct. Et ben, vous avez tous les ingrédients qui sont étalés devant vous. Donc le yaourt.
Le yaourt. Donc je vais vous montrer. Puis bah ça, c'est en plus, c'est le, quand on reçoit des gens à la maison, on se fait un tzatziki maison. Il ne faut pas aller l'acheter. Hein. C'est hyper bon, c'est facile.
On doit le faire minute.
Il n'y a pas de conservateur.
Il faut le faire minute. Ouais. Il se garde au frigo après un ou deux jours, hein, pas de problème. Mm-hmm. Et je vais vous donner mes deux petites astuces pour un bon tzatziki.
Génial.
Dans la main gauche,
on
la fameuse râpe.
Ah oui, alors la fameuse râpe qui servait aussi à râper la tomate pour la sauce tomate de Yaya. Et ouais. Là, c'est du concombre.
Première chose qu'on fait.
Qui est maltraité.
On râpe le concombre avec la râpe, cette fameuse râpe qui nous a aidé pour les tomates.
Un peu grossièrement.
Ouais, c'est important, il faut qu'il y ait un petit peu de mâche. Donc là, j'ai râpé.
On ne le pèle pas, le concombre ?
Moi, je pèle une tranche sur deux. C'est un concombre bio qu'on utilise. Et en râpant une sur deux, on a le goût aussi au niveau de la peau et la couleur. Donc
et puis, c'est intéressant d'avoir un peu de texture de cette peau légèrement amère. Les concombres poussent en Grèce et à Kalamata.
Bien sûr, tout pousse en Grèce.
Évidemment.
Comme en Corse, on disait.
Ouais, absolument. Je vous le confirme.
Ce que j'ai fait, alors ça, c'est hyper important. Une fois qu'on a râpé le concombre, on le met dans un torchon. Et là, on va serrer très fort pour égoutter toute l'eau du concombre. Voilà, parce qu'il ne faut pas que le tzatziki soit trop liquide.
Elvira a déjà pratiqué cette technique à la Réunion avec le chouchou. Vous vous souvenez, ce
exact,
légume que
sûr.
Vous avez pressé à travers un torchon pour en extraire le jus. Donc on se retrouve en fait avec une pulpe finalement assez sèche.
Exactement.
Et là, vous êtes en train de la mélanger avec votre fameux yaourt grec de chez Monoprix.
Exactement.
On peut le dire parce yaourt. Que quand la grande distribution fait des efforts, eh bien, on n'hésite pas à le dire.
C'est ça. Ouais.
Effectivement, il est assez gras ce yaourt.
Ouais, c'est dense. Assez crémeux en fait. Ouais.
Non, mais tant mieux.
Mais faut faire très attention. C'est un vrai yaourt grec, pas à la grecque. À la grecque, en général, c'est pas les vrais yaourts, c'est grec. Du coup, il est beaucoup plus compact et
génial.
Il a surtout un très bon goût. Donc là, je viens de mettre les concombres qui ont été égouttés.
Tout à fait, mélangés
avec le yaourt. J'ai rajouté un peu d'ail, en fait.
Ah,
c'est ma deuxième technique. L'ail, c'est souvent pas très digeste, donc quand on l'ouvre, on le coupe en deux, on enlève le germe, bien sûr, on le taille finement. Et alors là, vous mettez un petit peu de sel sur la planche avec cet ail. Et puis on va l'écraser avec le couteau. Ça va faire comme un pilon un petit peu. Et ça va faire une crème, une purée d'ail.
On masse l'ail en fait. Et le sel a pour mérite de faire suer l'ail.
Exact.
Et donc du coup on le transforme un peu en purée. Et c'est vrai qu'on se retrouve pas avec la lamelle d'ail entre les dents.
Voilà, c'est ça. Et sinon il y a une deuxième chose qu'on peut faire tout simplement. C'est faire confire l'ail dans de l'huile d'olive. Toujours une bonne huile. Hein. On le met pendant 1h30 à 60 degrés, juste un petit peu comme ça. Il va confire et on utilise cet ail confit dans le tzatziki. Il est beaucoup plus digeste et il a un super goût légèrement.
Pour ceux qui n'aiment pas trop l'ardence de l'ail cru, hein, donc c'est bien ça.
C'est ça.
On en est au yaourt, au concombre, un petit peu d'ail qu'on a massé préalablement dans de la fleur de sel ou dans du gros sel. Et
voilà,
ensuite,
j'ai mis donc un petit peu de sel. Je mets un petit peu de menthe comme ça que je découpe.
Mmh. Ah, ça sent la menthe d'ici là. Ouf.
Voilà, ça va apporter un petit peu le parfum l'été.
Que vous déchirez à la main, c'est la meilleure façon de le faire.
C'est ça. Et puis ensuite, toujours hyper important, l'huile d'olive.
Ah ouais,
et on en met beaucoup.
Quelques rasades. Elvira, vous êtes prête?
Bien sûr.
Vous allez devoir vous lever. Goûtez ce tzatziki. Est-ce que vous mettez une petite note d'acidité, Pierre-Julien?
Alors, là, je ne l'ai pas fait, mais on peut très bien mettre un petit peu de citron. Ça va très bien avec. Et on peut mettre aussi un petit peu de vinaigre blanc. Un tout petit peu.
Très bien.
Là, je l'ai fait nature, brut.
Voilà.
Et en Grèce, le tzatziki fait débat. On peut parler assez longtemps de tzatziki. Qui fait le meilleur tzatziki?
On parle beaucoup de ce qu'on a mangé, de ce qu'on mange et de ce qu'on mangera dans les déjeuners, dans les repas de famille. Hein,
c'est ça,
en Grèce.
Voilà.
Alors,
on goûte.
En plus, c'est votre truc.
Il est exceptionnel. C'est, vraiment,
c'est,
la cuisine,
c'est vraiment la cuisine
c'est
que vous aimez.
Ouais.
Vive l'été. Mmh. Voilà.
Exceptionnel.
La texture du yaourt est assez dingue.
Ouais. Et c'est voilà. C'est hyper
il a une. Je comprends en fait pour l'acidité parce que le yaourt lui-même.
C'est exactement ça.
Il a un petit peu
d'acidité, ce yaourt, voilà. Donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter autre chose.
C'est délicatement aillé, pas trop. Mmh. C'est une petite pointe d'ail.
Après, chacun l'adapte, on peut le faire plus ou moins aillé. Mmh. Voilà. Là, j'ai mis une demi-gousse d'ail pour 250 grammes de yaourt.
Alors, est-ce que c'est conforme à peu près à ce que vous avez goûté, vous qui avez eu la chance, Lénora, d'aller dans la région de Kalamata?
On sent l'influence de Vassili, hein, c'est le père qu'on entendait tout à l'heure.
Ce qui est intéressant, c'est que le tzatziki, c'est pas seulement ce mezzé qu'on sert en entrée dans les repas grecs, mais c'est aussi effectivement une garniture. Vous m'expliquiez que, notamment dans le restaurant que vous avez ouvert, Yaya, vous faisiez des pita que vous garnissiez de tzatziki.
Ouais, on l'utilise presque avec tous les plats. La pita, ce pain là, donc que je vous ai fait goûter là, on a deux façons de le faire. On le fait à la main, bien sûr, à l'huile d'olive. On le passe soit au four, comme ça, pendant 1h30, ça va faire des gros pains, un petit peu comme en mode un peu focaccia, mais beaucoup plus gros. Mm-hmm. Et on le fait aussi cuit dans l'huile d'olive à la poêle. Et ça, c'est hyper bon. C'est la recette du village et on le fait chez Aya, ouais.
Dernière saveur qu'on va explorer dans notre voyage dans le Péloponnèse. On parlait du yaourt grec. On peut aussi le déguster en version sucrée, pourquoi pas, nappé d'un miel un peu particulier.
Oui, le miel du Péloponnèse. Donc, on a poursuivi notre escapade grecque dans la région de Messénie à la rencontre de Dimitri, un apiculteur en haute montagne qui exerce depuis une dizaine d'années. Son rucher se compose d'environ 70 ruches et ici, les abeilles semblent heureuses. Elles peuvent se nourrir du nectar de milliers de fleurs différentes.
Là, nous sommes sur le département de Messénie, une trentaine de kilomètres de la capitale de Kalamata.
Mais là, on est en plein milieu des montagnes. Hein.
Nous sommes en plein brousse, oui, plein campagne. On a pris, vous avez bien vu, on a pris un petit chemin de terre pour arriver jusqu'à ici. Et nous sommes devant les abeilles, les ruches, qui produisent de très très bons miel de Péloponnèse, on appelle ça. Étant donné qu'il y a le flair, le soleil, l'humidité, le flair pousse énormément. On a des très très bons parfums.
Qu'est-ce qu'il a de particulier? Où est-ce qu'elles vont se nourrir, vos abeilles?
Si nous sommes ici, nous sommes en forêt. La forêt est en déchet de l'aile. Ça commence en arrière, ici. Le rique, le anixatique, que nous disons ici, il y a 15 ans. Παραπλήσαμε, αλλά.
Il y a beaucoup de bruyères ici, donc on récupère beaucoup de miel de bruyère.
Μετά συνεχίζουν να έχει αγριολούλουδα βέβαια κάτω.
Et une fois qu'on a récupéré le miel de bruyère, on a des miel de fleurs sauvages.
Εντάξει, είναι διάφορα τα λουλούδια, μαργαρίτες, λαδανιά, τα λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα.
Donc il y a de bruyère, il y a de la camomille, ça vous avez la camomille, de fleurs sauvages, de trèfles sauvages.
Εδώ πέρα αυτή στην περιοχή που είναι δεν πηγαίνουν τόσο εντατικές καλλιέργειες με φυτοφάρμακα, καταφέρνουν και επιβιώνουν πιο εύκολα.
L'endroit où nous sommes, il n'y a pratiquement pas de culture. Alors, il y a juste l'olivier, beaucoup d'oliviers bio, donc il n'y a pas de pesticides. Il n'y a pas de produits chimiques, et c'est pour ça qu'il prolifère pas mal les abeilles. Il n'y a pas de problème de mortalité des abeilles. On va chercher un support qui a beaucoup de miel dedans.
Ανοιξάτικη. Πού είναι πικρό, πικρή, αν έχεις δοκιμάσει ποτέ.
Sorti toujours la ruche, le vrai miel. Ni mélange, ni travaillé, ni chauffé, rien du tout.
Comme ça?
Comme ça. Avec le miel, vous pouvez récupérer même un peu de la cire.
Ça se mange la cire aussi?
La cire, ça se mange, oui. Ça se mange comme un chewing-gum. Pareil, on récupère le miel dans la bouche. Le miel qui coule par terre.
On sent les fleurs.
Excellent. Légèrement acide, étonnamment.
On a une toute petite amertume qui est hyper bonne. C'est du miel de bruyère et d'arbousier.
C'est l'arbousier qui donne cette amertume.
On a le goût, le sucre, les fleurs en attaque. C'est les fleurs qui apportent le sucre. Et en fin de bouche, tout de suite, il s'estompe.
Prenez avec l'alvéole. Voilà, vous mettez à la bouche. Tout. Non, c'est... Faut aller. Allez-y. Vous mâchez comme ça.
C'est bon avec l'alvéole.
Il faut tout mettre à la bouche.
Comme un petit
c'est
bonbon
de
miel.
La cire, on mâchouille, on a le goût du miel.
Ici, on trouve des bocaux de miel avec des alvéoles dedans.
Les chefs avec qui je travaille me demandent beaucoup justement l'alvéole rempli de miel. C'est pas évident à transporter. On va voir s'il peut nous faire un packaging pour que ça se garde jusqu'en France.
Un chewing-gum naturel de miel mâché par Lenora Krieff dans le maquis du Péloponnèse. Vous avez de la chance, décidément. Légère amertume hein, de l'arbousier, c'est bien ça?
Oui, une petite amertume. Mais il reste doux, hein, il reste vraiment doux ce miel. Hein.
Il est incroyable. Hein. Alors celui-ci, je sais pas si c'est exactement le même, mais je perçois en tout cas très clairement une douce amertume avec une note un peu granuleuse de ce miel qui a des reflets assez ambrés.
Voilà, il y a une base en fait arbousier équilibrée avec du miel de pin aussi. Il déplace ses ruches pour avoir le pin en haut des montagnes. Ce qui fait qu'on a ce côté résineux boisé sur le pin et l'équilibre des fleurs avec une légère amertume.
Comment vous le consommez ce miel ou comment vos clients utilisent ces délicieux miels que vous rapportez de Kalamata?
Pour moi le mieux c'est tout simplement avec le yaourt dont je parlais tout à l'heure. Yaourt au miel grec du Péloponnèse, c'est magnifique.
Il ne faut pas trop le dénaturer.
Nature, on le laisse tel quel. Il n'a jamais été chauffé, donc il faut le laisser nature.
C'est ça. Alors ça, il faut le préciser, c'est un miel. Et d'ailleurs, de manière générale, c'est l'exigence que vous vous imposez dans votre façon de sélectionner des produits, c'est leur naturalité.
Il sort de l'alvéole, il est mis en pot directement. Voilà. Donc c'est un miel qui n'a jamais été chauffé. Il garde du coup tout son goût.
Bravo. Dernier petit truc de cuisine qui ne va pas tomber dans les oreilles de sourds. C'est un petit assaisonnement tout simple pour le poisson, car... Le poisson, c'est aussi la cuisine grecque. On n'en a pas trop parlé, même si vous êtes un peu à l'intérieur des terres. En un mot?
Le poisson, c'est huile d'olive, origan, fleur de sel et un peu de citron. Et on peut assaisonner tous ces poissons qui sont cuits au barbecue ou au four. C'est magnifique. Voilà,
huile d'olive, origan, fleur de sel...
Citron.
Et ça, c'est une sauce vierge, en quelque sorte, dont on nappe les citrons qui est cru, hein. Avec laquelle on ne fait pas cuire les poissons.
Non, voilà, c'est pour napper à la fin, une fois que le poisson est cuit.
Oh là là, la cuisine, la famille et la Grèce, Kalamata, un délicieux bouquin, un délicieux livre, à la très belle couverture toute sobre, photo extraordinaire de Martin Bruno, les textes de Julia Samu à qui on fait un coucou. C'est aux éditions Kéribus, bravo, c'est un très bel objet qui fait sens. Et Kalios, c'est aussi tous vos produits grecs que vous expédiez par internet, le site internet
mykalios.com.
Et enfin, votre aventure avec votre frère Grégory, c'est aussi un restaurant, Yaya, du nom de votre grand-mère. L'adresse?
C'est 8 rue de l'Hippodrome à Saint-Ouen.
Et un deuxième Yaya vient d'ouvrir dans la halle secrétant Paris 19e avec une terrasse plein sud à deux pas des buts de Chaumont. Et les deux Yaya sont ouverts tout l'été. Notre voyage en Grèce se prolonge dimanche à 11h avec une émission toute fraîche et en direct sur l'un des fromages de l'été, la feta. À demain si vous avez encore faim.